Vous écoutez RTL.
On a vécu aujourd'hui un record du monde, celui du skipper français Francis Joyon et son équipage. Ils ont remporté le trophée Jules Verne pendant ce tour du monde. En 40 jours, ils ont tracé dans les eaux du Pacifique autour de l'Antarctique, affrontant les 40e rugissants.
Ils ont pulvérisé le record, c'est
pulvérisé. Alors, voguer dans l'hémisphère sud, c'est comment notre invité a vécu cette expérience. Bonsoir Cédric Gras.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Alors, vous êtes écrivain arpenteur. C'est comme ça que vous qualifiez. Ça veut dire quoi, arpenteur?
Oui, ouais, écrivain voyageur, je pense.
C'est joli, arpenteur.
C'est joli, on peut dire bourlingueur, arpenteur. En fait, moi, je suis géographe au départ.
Ouais.
Puis depuis que je me suis mis à écrire, on dit comme ça, écrivain voyageur.
Vous avez embarqué 3 mois sur un brise-glace russe. C'était il y a combien de temps?
C'est exactement l'année dernière, puisque là, on est en hiver dans l'hémisphère nord, et c'est au contraire la saison estivale dans l'hémisphère sud. Donc moi, j'ai participé à l'expédition russe antarctique de l'an dernier.
Mais alors, pourquoi cette curiosité? Enfin,
sinon,
quelle idée d'aller s'embarquer?
Un an après, évidemment, parce que ça, c'était une très très bonne idée.
Ah, il y a des stratèges. Hein.
C'était le plan de départ.
Pourquoi un brise-glace?
Parce que c'est original, quand même.
De toute façon, pour aller en Antarctique, sur le continent antarctique,
il n'y a pas le choix.
Le sud, il n'y a pas le choix. Vous n'avez aucune liaison aérienne.
Le kayak, c'est pas l'idéal.
Vous ne pouvez pas non plus prendre un billet sur Internet d'avion. Ouais. C'est inaccessible. Vous pouvez le faire pour le Groenland, par exemple. Vous allez sur Internet, là, vous achetez un billet pour le Groenland sur une ligne régulière. Ça n'existe pas pour l'Antarctique. C'est un continent isolé. Il n'y a jamais eu de civilisation, il n'y a aucun habitant à part les quelques scientifiques qui justement passent des hivers là-bas, mais on ne peut aller là-bas qu'en participant à des expéditions d'État. Voilà. Et donc moi, en l'occurrence, je suis parti avec l'expédition russe, mais j'aurais pu le faire avec les Français, avec les Chinois, les Indiens, les Anglais, enfin tous les pays qui entretiennent des bases là-bas.
Et vous parlez russe ?
Oui.
Vous le parliez avant ou vous l'avez appris exprès?
Je le parlais avant. Ça aurait été un peu compliqué, je pense, d'embarquer sur ce bateau sans parler le russe, parce que j'étais tout seul avec des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens. Tout le monde communiquait entre eux en russe.
Bon, tout de suite, on embarque avec vous sur l'académique Fedorov, ce brise-glace russe qui vous a permis de découvrir l'Antarctique et le quotidien de tous ces gens du voyage. Des récits incroyables à raconter dans un instant dans la curiosité.
Si la vie maritime ne s'arrête pas, c'est grâce à ces navires, les brise-glaces.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Moteur puissant, coque résistante, conçu pour fendre la glace et creuser un canal éphémère.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Il développe jusqu'à 75 000 chevaux pour travailler là où l'épaisseur de glace est très importante, en Arctique.
Sur RTL.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Et c'est du lundi au jeudi sur RTL, 2 heures de destin, d'histoire et de récits d'aventures rares comme celles que l'on vous raconte avec notre invité, l'écrivain Cédric Gras, qui a embarqué 3 mois sur un brise-glace russe. Il s'appelle l'académique Fedorov. Pourquoi vous avez choisi ce bateau en particulier?
Ah, il n'y a pas le choix.
Les
Russes en ont 2 d'habitude chaque année. L'année dernière, ils en avaient plus qu'un parce que le cours du pétrole était très bas et le budget des expéditions arctique-antarctique avait beaucoup chuté. Donc il y a un seul bateau qui est parti, à bord duquel j'ai pris place.
Combien de fois ce bateau, l'académique Fedorov, a déjà navigué autour de l'Antarctique, vous savez?
Oh, il a été construit à l'époque soviétique, à la fin des années 80, donc ça doit faire, il a dû faire une bonne trentaine d'expéditions, je pense.
Oui, c'est un ancien, expérimenté.
Il est encore en bon état, il est solide, c'est un gros bateau, 140 mètres de long, 6 étages de tirant d'air, c'est quelque chose de costaud.
Alors vous disiez, c'est une mission d'État, c'est ça? Donc ça veut dire qu'il a fallu négocier pour pouvoir monter sur ce bateau, ça a été compliqué?
Il y a eu un accord des Russes, effectivement, pour que je monte à bord, d'autant qu'ils savaient que j'allais, moi, écrire ensuite. Je me suis présenté comme un journaliste, écrivain, histoire de ne rien avoir à cacher. Mais c'était un privilège, effectivement, parce que jamais personne n'était monté, en tout cas dans ce but-là. Enfin, je parle d'étrangers, bien sûr, parce que les journalistes russes, il y en a eu, évidemment, à bord de ces expéditions. Mais toute l'idée, justement, c'était d'aller voir ce que font les Russes en Antarctique, de monter sur leur bateau, de participer à leur expédition. Parce que des expéditions en Antarctique, il y en a chaque année qui sont organisées par 2-3 dizaines de nations, c'est-à-dire tous les pays qui entretiennent des bases scientifiques en Antarctique, dont la France, évidemment.
C'est quoi la mission d'un brise-glace et de ce brise-glace, l'académique Fedorov?
Le brise-glace, c'est un chaînon logistique de l'expédition, c'est-à-dire qu'il vient ravitailler les bases scientifiques sur lesquelles vivent en permanence, été comme hiver, soit des scientifiques, soit justement des techniciens, des mécaniciens, des machinistes, qui sont là pour faire vivre ces bases, qui sont quand même implantées dans des zones très 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 rudes. Il y fait au bord de la mer jusqu'à moins 50, moins 60. Et puis quand on va à l'intérieur des terres, à 4000 mètres d'altitude, sur la calotte antarctique, il peut faire jusqu'à moins 89 degrés, moins 93 degrés le record.
Donc on y dépose des vivres et des hommes, c'est ça ?
Des vivres,
des
hommes
et des couettes.
Et beaucoup, alors voilà, des couettes, et plus que des couettes, c'est du carburant. Énormément de fuel pour l'hivernage, parce que pendant tout l'hiver, le continent antarctique est pratiquement inaccessible, même aux brise-glaces et même à l'aviation polaire.
Cédric Grave, vous publiez « La mer des cosmonautes », joli titre, aux éditions Paulsen. Pourquoi ce titre, tiens, d'ailleurs ? Parce qu'il y a des cosmonautes ? Parce que c'est comme une mission spatiale ?
Alors oui, il y a des explications, mais la première raison, c'est que cette mer des cosmonautes, elle existe. Elle est sur la carte.
D'accord.
Alors il faut une carte un peu précise, bien sûr. C'est une petite mer côtière de l'Antarctique, au niveau du cercle polaire austral, par 45 degrés est. Cette mer, elle a été nommée ainsi par les Soviétiques en 1962. Et effectivement, il y a un rapport avec le cosmos, évidemment. Mmh. 1962, ça arrive juste après 1961. Et si vous vous souvenez bien, 12 avril 1961, le premier vol dans l'espace de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, tout simplement. Ouais. Et puis ensuite, Titov et tous les autres cosmonautes qui ont fait partie des pionniers soviétiques de l'espace.
C'était l'époque où les Soviétiques avaient encore un coup d'avance sur les Américains.
Exactement, c'était un peu la décennie dorée, là, les années 60 de l'URSS. Et c'est effectivement pour rendre hommage aux cosmonautes que ces Russes, enfin ces Soviétiques à l'époque, ont nommé cette mer qui était vierge, puisque à l'époque, le continent antarctique était encore assez peu exploré. Et bien, ils ont nommé cette mer la mer des cosmonautes.
Alors, on a envie de partir avec vous maintenant, Cédric Grave. On embarque, on arrive en Afrique du Sud, c'est ça ? Ou le bateau, qu'est-ce qu'il fait en Afrique du Sud ? Il se repose un peu, c'est une pause ? Pourquoi vous retrouvez là, tous les deux ?
Alors le bateau, lui, il part chaque année de Saint-Pétersbourg en Russie, c'est-à-dire il part des antipodes, hein, il part de presque 60 degrés nord, et il descend à 60 degrés sud, il traverse le globe. C'est pas obligatoire de faire cette longue descente de l'Atlantique avec eux. Moi, j'ai effectivement rejoint le bateau en Afrique du Sud, dans la ville du Cap, où le bateau opère sa dernière escale avant l'Antarctique.
Alors là, on vous accueille ?
On m'accueille. Alors moi, je suis arrivé
avec votre petit sac léger.
Je suis arrivé avec un sac assez volumineux, parce qu'il faut emmener quand même des gros manteaux, des bottes rembourrées. Mais je suis arrivé le dimanche soir, on devait apparaître lundi matin. En réalité, il y avait une avarie, donc j'ai eu le privilège d'attendre 3 semaines au Cap que le bateau soit réparé. Mais cela dit, l'Afrique du Sud et le Cap sont des endroits assez extraordinaires.
Oui, donc surtout quand on se prépare à partir en Antarctique.
Effectivement, alors on prend un dernier bain de soleil.
Le rap de soleil, c'est pas mal, oui.
Mais l'Afrique du Sud, justement, pour eux, pour ces hommes qui vont assez régulièrement en Antarctique et qui font toujours ce même itinéraire, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, le Cap et ensuite l'Antarctique. Le Cap, c'est vraiment leur base arrière. C'est une ville qu'ils connaissent très bien, ils y font relâche à chaque fois. Et effectivement, ils ont leurs habitudes. Ça peut être d'aller boire un coup, évidemment, en centre-ville, les plages, le surf pour certains. Et c'est aussi, par exemple, le jardin botanique, dont l'opulence en chlorophylle eh bien, contraste avec le monde minéral et glaciaire de l'Antarctique. Et pour eux, ça, c'est très important.
Alors, on veut tout savoir. Une fois que l'avarie est réglée, réparée, vous allez partir pour ce grand voyage en Antarctique. Vous êtes installé comment ? Vous avez une cabine à vous ? Vous la partagez ?
Moi, j'ai eu le privilège d'avoir une cabine personnelle.
C'est petit ?
J'ai été très bien traité. Non, pas si petit. Mais moi, j'étais avec au pont des officiers, au quatrième pont supérieur. C'était une forme d'honneur de leur part. Effectivement, il y en a qui sont traités un peu plus durement.
Par exemple,
ils sont dans
l'entrepont.
Les marins, et puis aussi tout simplement toutes les personnes qui partent sur les bases, hein, qui sont considérées sur le bateau comme des passagers.
Les scientifiques.
C'est pas l'équipage. Scientifiques compris. Ouais.
Ah, oui.
Tout dépend un petit peu du poste qu'on occupe dans la hiérarchie. Les chefs de base ont des cabines à eux, mais beaucoup de scientifiques sont à 4 par cabine dans l'entrepont, c'est-à-dire pratiquement au niveau de la ligne de flottaison. Donc les hublots, par exemple, ne s'ouvrent pas. C'est dur, hein. C'est 10 jours de mer pour aller jusqu'en Antarctique, c'est encore très loin de l'Afrique, donc c'est quand même une longue traversée.
Comment on dit bienvenue à bord en russe ?
Dobro pozhalovat na bord.
J'adore.
Merci.
C'est une jolie langue, non ?
C'est très joli. Il y a beaucoup de corps de métiers différents, parce que nous, on ne les connaît pas, ces scientifiques. Quelles sont leurs missions ? Que font-ils ?
Des choses diverses et variées. Ça peut considérer d'ailleurs, avant même qu'on arrive en Antarctique, l'océan glacial antarctique, c'est-à-dire des hydrologues qui étudient cet océan. Ensuite, sur le continent, ça va être des glaciologues, des météorologues, des géophysiciens, des géologues, toutes sortes de professions scientifiques qui ont pour but de compléter l'étude et la connaissance qu'on a de la planète Terre.
Est-ce qu'on les appelle des polyarniques, c'est ça ?
C'est ça.
Les polyarniques,
on les appelle des polyarniques, c'est-à-dire des hommes d'épaule.
Oui.
c'est une profession en soi en Russie, surtout à l'époque de l'URSS. C'était des gens qui passent leur vie, en fait, qui consacrent leur vie au pôle. Ça peut être aussi l'Arctique, hein, Arctique ou Antarctique.
D'accord.
Ils y vont tellement souvent, ces gens qui ont fait tellement d'expéditions dans leur vie que c'est devenu un métier en soi, une profession, on les appelle comme ça, les polarniki.
À bord de ce bateau, il y a un couvre-feu.
Et un couvre-feu au cap, parce que tant qu'on était à quai et qu'on attendait...
Pour qu'ils reviennent à bord quand même de temps en temps, qu'ils n'aient pas juste au bar et
exactement.
Faire du surf, c'est
ils,
ça
ils étaient censés tous être rentrés à 8h du soir à bord.
Est-ce qu'il y a une excitation à l'idée d'approcher l'Antarctique, de l'équipe, de l'ambiance à bord?
Oui, bah bien sûr, parce qu'eux, ils viennent pour ça. C'est-à-dire que le bateau part du cap, c'est déjà mieux que de rester en rade en Afrique du Sud, mais lorsqu'ils sont à bord, encore une fois, ce sont des passagers. Donc eux, leur but ultime, ce sont les bases scientifiques antarctiques, et ils ne seront, entre guillemets, au travail que lorsqu'ils seront sur ces bases. Donc plus on approche de l'Antarctique, plus on sent que les gens s'affairent sur le bateau, préparent les derniers détails, et puis n'attendent que le débarquement.
Eh bien, là, je vous propose d'y aller. On part avec l'Académie Fedorov.
Vous avez les bonnes
chaussures ? Oui, j'ai j'ai une bonne doudoune et puis j'ai des chaussures avec des...
Ça va aller, alors.
Des poils de chien à l'intérieur. J'espère que j'ai fait le bon choix. Bon, je croise les doigts. Allez, on va vous raconter l'infernale traversée jusqu'à l'Antarctique. Tout de suite.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le pétrolier brise-glace Timofey Gouchenko navigue dans les eaux glacées de l'océan Arctique.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec ses 94 000 tonnes, le Timofey Gouchenko est le champion incontestable des poids lourds de la glace.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Nous allons découvrir ce qui a permis au brise-glace de repousser les limites de l'exploration des régions polaires.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
C'est un voyage unique que l'on vous raconte sur RTL. 3 mois à bord d'un brise-glace russe, l'Académique Fedorov. Sa mission, ravitailler les bases du continent antarctique, déposer les scientifiques pour leur hivernage. Notre invité, l'écrivain voyageur Cédric Gras, a vécu cette aventure. Alors là, on écoutait dans la mise en onde de Sébastien Duduit, c'est un autre brise-glace qui ne va pas au même endroit, c'est ça ?
Non, c'est des brise-glaces atomiques qui circulent en Arctique, mais je ne les connais pas tous par cœur. La Russie a encore la plus grosse flotte de brise-glaces au monde, et ils sont assez nombreux, c'est difficile quand même de connaître tous les noms.
Et des brise-glaces atomiques, on ne peut pas en trouver en Antarctique ?
Non, c'est impossible, parce que l'Antarctique est un continent qui est régi par un traité international, qui exclut toute revendication territoriale, qui exclut toute exploitation, et qui prohibe effectivement toute opération militaire, et toute présence de matériaux nucléaires.
Et c'est notamment l'un des combats du commandant Cousteau. On l'avait raconté à l'occasion de la sortie du film quand on en avait parlé dans la curiosité. Alors on est avec vous là sur ce brise-glace, l'Académique Fedorov. On est monté à bord, direction l'Antarctique. Déjà, la traversée, ça secoue tout de suite ?
Ça secoue. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu dans ma vie. C'est peut-être même un souvenir aussi fort que l'Antarctique en elle-même. C'est le spectacle de ces océans déchaînés. Ça m'a beaucoup marqué. C'est exactement ce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps sur nos écrans de télévision avec les concurrents du Vendée Globe.
Mmh, oui.
Alors, la différence, c'est qu'eux, ils font le tour de l'Antarctique en se tenant un peu à distance des glaces pour ne pas rencontrer un iceberg. Et le brise-glace, au contraire, lui, il fait route vers l'Antarctique et traverse les 40e rugissant. Donc il y a environ 3 jours, ça secoue énormément.
Avec des vents particulièrement violents, c'est ça ?
Du vent, des vagues très très hautes. Alors quand on est sur un brise-glace, à la fois c'est un gros bateau, donc on n'est pas sur un monocoque comme les concurrents du Vendée Globe, mais en même temps les brise-glaces ne sont pas conçus pour la haute mer. Les brise-glaces sont conçus, comme leur nom l'indique, pour la banquise et non pas pour la haute mer. Donc ça tangue un petit peu.
Ça tangue et on est malade aussi, les scientifiques. Certains marins,
chacun,
même. Et vous,
chacun
Cédric
Gras, chacun a sa
vous
cabine
êtes vite
personnelle.
À mariner ou ça a été compliqué ?
Non, moi ça allait, alors que pourtant je suis assez sujet au mal de mer sur des petits bateaux. Et là, mais certaines personnes étaient alitées, j'ai vu. Personne de très malade. En revanche, c'est vrai qu'il y a des repas qui sont annulés parce que tout part. Hein, les tables, les chaises, la vaisselle, tout va le dingue, tout est brisé. Il y a certains jours où c'est assez difficile de continuer à avoir un mode de vie normal.
Et la mer, elle a de quelle couleur ? Elle est noire ? Elle est épaisse ?
Elle est assez sombre, en même temps, elle est striée d'écume que les vents promènent comme ça sur les vagues. Donc c'est très beau, c'est marbré, en fait, tout simplement.
Alors, cette aventure, vous la racontez dans votre livre « La mer des cosmonautes », publié aux éditions Paulsen, les 40e rugissants. C'est la latitude, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Et le vent, c'est le vent qui donne ce nom ? Parce qu'il y a toujours le bruit du vent quand on est là-bas.
C'est la tempête, oui. Ah bah, vous avez le bruit du vent en permanence. quand la mer est trop forte, de toute façon, il est interdit de sortir sur les ponts extérieurs. Hein, donc, j'ai pas pu non plus en profiter pleinement. Un petit peu depuis la timonerie. Moi, j'avais le privilège de...
C'est le commandement, la timonerie, c'est ça tout en haut.
C'est là où il y a simplement la barre du bateau. Et eux, ils ont un panorama exceptionnel. Et on voit effectivement la proue s'enfoncer et puis remonter, escalader ces vagues gigantesques de plusieurs mètres. C'est absolument super.
Mais ces 40e rugissants, ils ne servent pas à rien. En fait, les marins vont dedans exprès. Pourquoi depuis des centaines d'années? Parce que ça permet d'aller plus vite.
Non, les marins n'y vont pas tellement dans les 40e rugissant, sauf les concurrents du Vendée Globe et les gens qui partent en Antarctique.
Pas les marins aujourd'hui, mais il y a des marins il y a quelques centaines d'années. C'est comme ça qu'on a développé le commerce
les caporniers,
de l'Europe, à l'Amérique, à l'Australie.
Il y avait des bateaux qui dépassaient les caps, c'est-à-dire le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, mais on n'est pas encore dans les 40e rugissant.
Oui, ils ne s'enfonçaient pas vers l'Antarctique.
Il suffisait pour eux de contourner le continent américain ou africain, et puis c'est tout. Les Français, l'expédition française, elle part de Tasmanie au sud de l'Australie. Mmh. Tout le monde part effectivement depuis un Finistère, depuis un Cap, c'est-à-dire les endroits les plus proches de l'Antarctique. Voilà.
Alors à bord de ce brise-glace russe,
vous le faites en
Académique Fedorov.
Fyodorov, on dit en russe.
Ah oui, mais c'est forcément, on allait se planter plusieurs fois.
Et les polyarniques.
Non, ça, il faut vous laisser dire. Comment vous dites
polyarniques.
D'accord. Donc ça, ce sont les marins du pôle, quoi, c'est ça
hein? Ce sont les marins aussi, d'ailleurs, pardon, mais surtout les scientifiques du pôle, les techniciens.
Ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Ils existent depuis longtemps.
C'était parce qu'on a parlé des années 60, etc. C'était des héros de l'époque, de la guerre froide.
Excellente question. Alors, ils existent en Arctique depuis les années 30. C'était sous Staline, la conquête de l'Arctique soviétique, les premières bases météorologiques sur l'océan glacial arctique, etc. etc. C'est très important, effectivement, de lire un petit peu ce passage de l'histoire soviétique et russe pour bien comprendre que ceux qui partent en Antarctique, eh bien, ce ne sont rien d'autre que leurs héritiers. Parce que tous ces gens-là, en fait, sont formés en Arctique avant de partir en Antarctique. Voilà. Alors, en Antarctique, ils existent depuis 1956. C'est à peu près la date, un petit peu, pour tout le monde, hein, même pour les expéditions françaises, américaines, japonaises. Parce qu'en 1957, très exactement, toutes ces nations, enfin une douzaine de nations, se sont de manière concertée lancées effectivement dans l'installation de bases scientifiques en Antarctique. C'était 1957, l'année géophysique internationale.
Et évidemment, ils ont vécu des aventures extraordinaires, on ne peut pas toutes les raconter, mais en avril 1973, qu'arrive-t-il à un bateau légendaire qui s'appelle le HOP, c'est ça? Et ses centaines de polyarniques.
Alors, sans doute, j'ai plus toutes les dates en mémoire, mais 1973 et puis d'autres dates, les Russes, les Soviétiques, comme d'autres nations, ont beaucoup été confrontés à des dérives. C'est-à-dire que les brise-glaces, d'abord, n'ont pas le droit d'être nucléaires, c'est ce qu'on dit. Donc, si on disait tout à l'heure, c'est une propulsion classique, ils sont moins puissants, et puis à l'époque, de toute façon, c'était des bateaux moins puissants, et donc ils étaient pris dans les glaces, tout simplement, pris dans la banquise. C'est des malheurs qui sont arrivés assez souvent dans l'histoire de la conquête de l'Antarctique.
Ça veut dire que la banquise se noue autour du bateau et le bateau peut plus bouger, il n'y a rien
exactement,
à faire.
Exactement, le bateau est prisonnier de la banquise. Alors l'avantage, c'est qu'avec des brise-glaces, la coque n'est pas broyée, parce qu'à l'époque, au 19e siècle, les coques en bois, elles étaient étreintes par les glaces et le bateau était tout simplement voué à la destruction. Alors sur un brise-glace, on attend des mois.
On attend le printemps,
on attend une tempête qui va casser la banquise et libérer le bateau.
Et on va raconter l'histoire aussi de ceux qui sont à bord. Est-ce qu'il y a des femmes? Tiens, par exemple, on va répondre à cette question dans un instant sur RTL.
Nous sommes à bord d'un brise-glace russe. Bienvenue sur l'Académique Fedorov. Si j'ai bien maîtrisé l'accent russe de notre invité Cédric Gras, qui partage avec nous le quotidien de cet équipage de cette 61e expédition russe en Antarctique. La toute première escale, c'est quoi après les 10 jours de traversée?
Oh, ça dépend des années, ça dépend du programme. Les Russes ont...
Pour vous.
Ont eu jusqu'à une dizaine de bases autour du continent antarctique. Nous, la première base qu'on a accostée, elle s'appelle Maladiojna. C'est une base aujourd'hui fermée, mais on y a déposé une équipe biélorusse qui venait fonder la première base biélorusse.
Quelle est leur mission? Quelle était la mission de ces scientifiques? Vous ne savez pas forcément...
Leur mission, là, c'était de construire la base, tout simplement. Ils en étaient à la première pierre. Il n'y avait pas de gros programme d'études pour cette année-là, si ce n'est d'arriver à finir la base avant que l'hiver arrive.
Vous avez passé beaucoup de temps avec tout cet équipage, ces scientifiques, ces mécaniciens, ces marins. Ce sont des hommes, pour l'essentiel?
Alors, ce sont des hommes, oui, pour l'essentiel, à 90%. Il y a 10% de femmes qui sont soit des membres de l'équipage, souvent dans les cuisines, les tâches ménagères. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui s'engagent dans ces expéditions. Et puis, il y a des scientifiques aussi, des femmes, mais qui sont là que pour l'été, pour la saison. Lors des hivernages, c'est-à-dire les gens qui vont passer plus d'un an sur les bases, et notamment subir la nuit polaire, eh bien, pour l'instant, il n'y a aucune femme qui est autorisée. Ça changera peut-être un jour, mais jusque-là, la politique des Russes, c'est seulement des hommes.
Mais c'est quand même un sacrifice personnel et familial. Est-ce que ces hommes, donc majoritairement, ont une vie de famille ?
Oui, complexe. Oui. Chacun a la sienne. Il y a des existences qui sont faites de multitudes de successions de divorces et de remariages. Il y en a qui peut-être ont des contrats assez peu communs avec leurs femmes, j'en sais rien. Et chacun a son intimité, chacun a sa façon de fonctionner. Mais effectivement, la plupart de ces gens-là ont des familles, notamment l'ancienne génération qui vient toujours encore en force dans ces expéditions. C'est la génération soviétique, parce que sous l'URSS, un héros, qu'ils partent en Antarctique ou dans le cosmos, un héros, ça devait avoir avec soi une famille modèle, une épouse fidèle, des enfants, etc.
Vous parlez de ces femmes qui sont souvent dans les cuisines ou qui font les tâches ménagères. Elles embarquent sur ce brise-glace parce que c'est bien payé, parce que ça permet de mettre de l'argent de côté, par exemple, pour la famille ?
Oui, tout le monde. Aujourd'hui, c'est le cas pour tout le monde. À l'époque soviétique, c'était pas seulement avec cette motivation qu'ils partaient, parce qu'il y avait, c'était la grande époque de l'URSS, il y avait un enthousiasme, il y avait un esprit de conquête, un esprit d'aventure. C'est une manière de voir le monde aussi, tout simplement. Les citoyens soviétiques n'avaient pas vraiment l'opportunité de voyager. Aujourd'hui, il y a évidemment un goût pour la science et pour les pôles, mais c'est beaucoup, effectivement, pour gagner. Les salaires sont multipliés par 3 en Antarctique.
Comment ils maintiennent le lien avec leur famille, ces hommes qui partent pour parfois une année entière
Plus qu'un an, parce que le temps de faire le voyage en bateau de Saint-Pétersbourg, on est souvent à 15 mois d'absence. Ah bah aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus confortable. Quelque part, il y a Internet, il y a Skype. À l'époque, c'était effectivement des silences assez longs. Il n'y avait que les lettres, mais les lettres, elles n'arrivaient que lorsque les bateaux pouvaient traverser la banquise. C'était pas tous les jours.
Cédric Gras, sur ce brise-glace sur lequel vous avez passé 3 mois, comment est rythmée la vie ? Par quoi ? Les repas ?
Oui. Beaucoup.
Ah, c'est toujours important, ça.
Sur les bateaux, c'est effectivement rythmé par les repas. Il y en a 4 par jour. Ça ponctue.
Le goûter, c'est ça, le 4e ?
Oui, c'est ça. Bah, il y a un petit déjeuner très tôt. Ensuite, à 11h30, un déjeuner. Puis après, il y a un goûter, effectivement. Et puis le dîner. Des promenades aussi sur l'héliport. L'héliport, c'est vraiment là. Moi, je trouve que ça ressemblait à une espèce de cour de prison où les gens venaient faire leur promenade quotidienne. C'est le seul endroit où on peut vraiment se défouler. Et en même temps, c'est beau. On est en pleine mer, en plein océan glacial. Il y a les albatros, les pétrels qui volent autour de vous et vous marchez. C'est fantastique.
Dans votre livre, La mer des cosmonautes, vous racontez qu'il y a une règle à ne pas enfreindre à table. Laquelle ?
Ah oui, parce que j'ai raconté effectivement qu'ils mangeaient dans un silence assez pesant et puis avec une rapidité qui m'effrayait toujours, étant donné qu'on n'a pas grand chose à faire sur un bateau.
Mais autant discuter pour bien mâcher, quoi, c'est ça.
Moi j'étais dans le carré des officiers, effectivement c'était une ambiance assez pesante, alors que dans la cantine où j'aurais beaucoup aimé finalement, mais ils m'ont mis dans le carré des officiers pour me faire un honneur en réalité. Dans la cantine, c'était beaucoup plus joyeux en général, j'entendais les rires.
C'était quoi au menu ?
Au menu, ouais, des choses très, très, très classiques, très simples, très répétitives aussi, tout simplement.
De la viande.
Beaucoup de viande, énormément de viande. Les Russes sont des carnassiers. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est facile à conserver, à congeler et à emmener avec soi.
Est-ce qu'on perd un peu la notion du temps quand on est sur un bateau comme ça
Oui, complètement, complètement. Surtout en mer, je trouve, parce que à la fois, on est assez inactif et en même temps, les jours passent agréablement et dans un environnement très esthétique, très beau.
Moi, bien contemplatif. C'est ça ?
Ah ben on devient forcément contemplatif. Ouais. Chacun a ses occupations pour faire passer le temps.
L'Antarctique, on en parle, c'est un continent, un 6e continent. Pourquoi est-il si important pour les Russes ? Qu'est-ce qu'il incarne ? Que raconte-t-il comme histoire ? La réponse tout de suite sur RTL.
Voyage au bout de l'enfer blanc dans la curiosité sur RTL avec l'écrivain Cédric Gras qui a vécu 3 mois sur le brise-glace russe, l'académique Fedorov, dans les eaux de l'Antarctique. Voilà, tout ça pour ceux qui nous rejoignent et qui prennent cette interview en cours. La mer des cosmonautes, c'est le titre de votre livre. Alors on parlait du temps, de cette notion du temps qui s'effiloche d'une certaine façon. Et vous parlez d'une mesure du temps au sablier capillaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Non, c'est moi qui me suis amusé. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, les chevelures commencent à enfler. Et la solution, solution, comme il n'y a pas de coiffeur à bord, évidemment, c'est de faire circuler les tondeuses dans les cabines et tout le monde se rase la tête, ce qui fait que tout le monde ressemble à des prisonniers à la fin, au bout d'un mois.
Vous disiez qu'il y a un petit peu d'ennui aussi à bord, forcément, puisqu'on attend l'arrivée en Antarctique. Et il y a quand même un endroit où on aime bien se retrouver, alors même si on discute pas trop à table, on aime bien se retrouver au Banya russe.
Oui, alors c'est le Banya, ça c'est souvenir, l'équivalent du sauna finlandais, mais chez les Russes.
Mais il y a ça sur le bateau ?
Il y a ça sur le bateau, bien sûr. Ah oui. Il y a ça sur le bateau, il y a ça sur toutes les bases. D'ailleurs, il y a une base, la base de Vostok, qui est la base où il fait le plus froid. Il y fait fréquemment moins 80 degrés l'hiver. Et les Russes ont un espèce de club d'initiés.
Non, vous n'avez pas dû dire que...
Ils le Banya à 120 degrés et ils sortent ensuite par moins 80 degrés dehors. Donc ça fait une amplitude thermique de 200 degrés. Et ceux qui osent faire ça voilà, font partie du club 200. Ça,
et vous, vous faites partie du club 200, Cédric Gras ?
Non. Mais moi, j'y suis allé l'été, j'aurais pas eu l'occasion de...
200 degrés de différence, c'est de la folie.
Est-ce qu'on boit des coups aussi à bord ?
Bien sûr, il y a des problèmes d'alcool, évidemment. Ouais. Mais ça, c'est la même chose sur le brise-glace, comme en Russie continentale, j'ai envie de dire.
Oui, est-ce qu'on peut boire autre chose que de la vodka ?
On peut boire autre chose que de la vodka. Non, les Russes, de toute façon, ne boivent jamais d'eau. Hein. Si ce ne sont pas des boissons alcoolisées, les Russes ont tout une...
C'est des thés,
des soupes, des thés, des boissons à base de fruits séchés. C'est pas des gens qui boivent de l'eau, les Russes.
L'Antarctique, c'est un continent important pour les Russes, notamment parce que c'est eux qui ont découvert ce continent.
Oui, alors eux disent que ce sont eux, c'est l'expédition Bellingshausen-Lazarev en 1820. Cela dit, ils ont peut-être raison, on n'en sait rien, mais on soupçonne que à la même époque, des baleiniers américains notamment aient fait la même découverte à peu près au même moment. En tous les cas, leur expédition, qui était une sorte de la Pérouse de l'Empire tsariste, eh bien, a sans doute fait partie de toute façon des tout premiers à voir le continent antarctique.
En revanche, il y a beaucoup de noms qui font référence à la Révolution russe.
Oui, parce que les Russes ne sont allés là-bas régulièrement qu'à partir de l'URSS, et donc effectivement toute leur exploration, toute leur étude s'est faite sous la période soviétique, et ils ont baptisé évidemment avec leur marotte marxiste-léniniste habituelle. Effectivement, il y a une base par exemple qui s'appelle Mirny, mais dont la rive, les soviétiques quand ils sont arrivés là-bas, ils ont appelé ça la rive de la Pravda. La Pravda, c'est un organe de presse officiel sous l'URSS.
Ça veut dire la vérité.
Ça veut dire la vérité, ouais, c'est ça.
À quelle occasion vous êtes sorti du brise-glace, Cédric Gras ?
Je suis sorti sur toutes les bases qu'on a ravitaillées.
Ouais. Combien en tout de base ?
J'en ai fait trois. Donc il y a eu, et puis j'ai fait une base chinoise, une base indienne. Partout où on est passé, j'ai pu effectivement descendre à terre, et puis j'ai pu vivre même jusqu'à 12 jours une fois sur la base de Progress.
Dans quelles conditions quand vous sortez ? Qu'est-ce que déjà le paysage ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Ah, l'Antarctique, c'est
toujours pareil.
C'est immaculé. C'est une énorme calotte de glace. Hein. C'est plus grand que l'Europe en superficie, l'Antarctique. On oublie très souvent nous que l'Antarctique existe, parce que comme il y a aucune civilisation en Antarctique, on n'en parle jamais. Mmh. Tout le monde oublie qu'il y a un continent qui s'appelle l'Antarctique et qui est aussi grand que l'Europe et qui est couvert d'une calotte de glace qui culmine jusqu'à plus de 4000 mètres d'altitude. Dont les enjeux en cas de réchauffement climatique sont bien supérieurs à ceux de l'Arctique. On ne parle pas de quelques mètres de hausse du niveau des océans. Là, on parle de 50, 60 mètres de hausse du niveau des océans si l'Antarctique fondait. Donc, quand on est là-bas en Antarctique, effectivement, on est sur un gigantesque glacier, ce qui réduit d'ailleurs beaucoup les mouvements, hein, parce que c'est dangereux, un glacier. Et donc, on est condamné à rester sur le territoire de la base et à se déplacer avec les équipes de spécialistes qui, en fonction de leur mission, eh bien, peuvent m'embarquer avec eux pour la journée ou pas.
Ça veut dire qu'ils sondent la qualité de la, je dis peut-être n'importe quoi, de la glace.
Alors ils font des carottes
avant de se déplacer.
Oui, les Russes ont beaucoup fait ça. Les Soviétiques sont devenus même se sont fait connaître en Antarctique par leur forage qui était à l'époque le plus profond du monde, qui est toujours d'ailleurs le plus profond du monde. Ça s'appelle la paléoclimatologie, c'est-à-dire on reconstitue l'histoire du climat. Et les Soviétiques puis les Russes ont été pionniers en la matière, mais avec l'aide aussi des scientifiques français à l'époque. C'était Lorius et Jean-Robert Petit.
Oui, mais ma question n'était pas assez précise. Moi, je pensais au déplacement. Comment on se déplace sur un glacier gigantesque comme celui-là, en limitant les risques, en fait.
Les Russes avaient conçu une machine à chenilles qui est devenue légendaire chez eux, qui s'appelle Kharkovchanka. Kharkovchanka, en français, en lecture française du ciel.
Ouais. Merci de vous adapter.
Bon, de toute façon, je pense que personne ne la connaît en France, cette machine. En gros, c'est un tank. C'est sur des chenilles et on habite à l'intérieur.
Ça existe toujours ?
Il n'y en a plus maintenant. Elles ont tourné encore jusque dans les débuts des années 2000. Maintenant, elles sont remplacées par des choses plus modernes. Mais ce sont ces machines qui sont devenues légendaires. Il y en a même une qui est restée comme ça un peu en guise de musée sur un monticule en Antarctique. Ce sont ces machines légendaires qui ont permis la conquête du pôle géomagnétique, du pôle relatif d'inaccessibilité, qui sont les pôles les plus inaccessibles en Antarctique.
Cédrica, vous avez vécu enfermé sur ce brise-glace, puis quelques jours, quelques poignées de jours sur ce grand glacier, ce continent blanc. On se sent comment sur l'Antarctique? Est-ce qu'il y a un sentiment particulier, un vertige, une frayeur, ou même de l'excitation?
Il y a une excitation quand on arrive, effectivement, quand le bateau commence à croiser les premiers icebergs, qui sont des icebergs gigantesques, parfois ils culminent au-dessus du bateau. C'est assez incroyable, on sent que l'Antarctique est là, et puis on arrive, le bateau ensuite attaque la banquise et il trace un chenal jusqu'aux côtes. Ensuite, ce n'est plus que du blanc, à tel point que lorsque la banquise d'été finit par casser à la fin de l'été, c'est-à-dire en février, et qu'enfin on voit arriver dans le paysage des teintes bleues, là où la banquise crée des failles, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette couleur bleue réjouit le regard à ce moment-là, parce qu'on est vraiment lassé du blanc.
Vous pouvez nous faire un cadeau? Comment on dit « la curiosité est un vilain défaut » en russe?
Ils n'ont pas cette expression, mais « curiosité, c'est любопытность ». Je ne sais pas, on pourrait inventer une phrase avec ça.
Inventer.
Любопытность – это плохое качество. Je ne sais pas, moi.
La curiosité est un vilain défaut en russe. Merci beaucoup, Cédric Grave. Vous publiez « La mer des cosmonautes » aux éditions Paulsen. Un très, très beau récit d'aventure, un récit d'écrivain voyageur. À bientôt au micro de la curiosité.
Merci beaucoup, c'était un très bon moment de radio.
Vous écoutez RTL.